Canu 102.2. Canu Info du vendredi.
Canu, donne-moi des infos.
La radio più ribelle.
Paniquez pas. Canu Info du vendredi. Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous. On est bien vendredi, il est 19h06 et vous êtes sur le 102.2 FM ou peut-être en podcast. En tout cas, c'est le Canu Info du vendredi. Alors, comme d'habitude, vous pouvez nous appeler si vous le souhaitez au 04 78 39 18 15. Et quoi qu'il en soit, ce soir, on va vous parler beaucoup d'international, en commençant par l'Ukraine et effectivement la guerre qui commence avec la Russie.
Puis nous lirons le communiqué de la CRIRAD sur les sites nucléaires en Ukraine.
Ensuite, on parlera du mur entre la République dominicaine et Haïti.
On arrivera au national avec les travailleuses sociales qui gagnent le Ségur.
Une deuxième bonne nouvelle avec le Conseil constitutionnel qui censure la conservation généralisée des données de connexion.
Et enfin, les violences faites aux femmes, l'impunité des forces de l'ordre.
Et puis ensuite, on terminera par les classiques rubriques agenda et ACAB. Alors du coup, n'hésitez pas à appeler pour la CAB.
Dans la rubrique internationale du Canu Info, on entend l'écho de lutte, on écoute des reportages insoupçonnés de manifestations à travers le monde, on évoque des thèmes variés comme le gaz de schiste
et d'exploitation de gisements de gaz de schiste,
les mouvements sociaux, les luttes et la France-Afrique. Bonne écoute dans la rubrique internationale.
Et voilà, pour commencer cette rubrique internationale, du coup, on va vous parler de, évidemment, la guerre qui a été déclenchée par la Russie en bombardant l'Ukraine. Alors, peut-être un petit disclaimer avant de commencer, c'est quand même pas facile de parler à la fois d'un sujet d'actualité comme ça, géopolitique par ailleurs, et peut-être aucune d'entre nous est vraiment grand spécialiste des questions de l'Ukraine et de la Russie. Pour autant, on trouvait que c'était quand même important de venir là-dessus, puisque c'est quand même la guerre. Et effectivement, même si on sait bien que des guerres, il y en a constamment, perpétuellement, à travers le monde, là, c'est quand même dans des pays qui sont plus proches de nous. Il y a plus de chances qu'on connaisse des personnes qui sont là-bas. Et peut-être, ça peut aussi générer plus d'inquiétude, car malheureusement, généralement, plus les choses sont loin, moins elles nous préoccupent collectivement. Pour commencer, on peut peut-être se faire une petite idée de ce que c'est l'Ukraine finalement, parce que c'est un pays qui est vraiment très jeune. En gros, il y a eu la fin de l'Empire russe donc en 1917, et donc l'État ukrainien, en tout cas l'Ukraine comme vraie unité, a existé à ce moment-là, mais seulement jusqu'à 1922, donc c'est vraiment quelques années. Et à partir de 1922, eh ben, il y a l'URSS quand même qui a existé, donc qui a absorbé, on sait, l'Ukraine et bien d'autres pays. Ça jusqu'en 89 et la chute du mur. Et c'est à ce moment-là que l'Ukraine a existé comme État, en tout cas comme on le connaît aujourd'hui. Mais depuis, c'est quand même pas si simple en Ukraine. Et du coup, il y a une forte alternance entre des gouvernements qui sont pro-russes et des gouvernements qui sont pro, on va dire, Occident. Et il y a des gros enjeux de pouvoir, en fait, entre les deux anciens blocs de la guerre froide qui se déroulent là-bas, avec évidemment les différents services secrets dont on sait qu'ils ont poussé des présidents à prendre le pouvoir en fonction un petit peu des thématiques du moment et des besoins de réappropriation du pouvoir des deux blocs. Par ailleurs, l'Ukraine elle-même, elle est vachement divisée. Alors, on va caricaturer un peu pour mieux comprendre, mais il y a un bloc à l'ouest, qui est très pro-Europe et OTAN, et à l'est, il y a un bloc qui est plutôt très soviétique. Du coup, ça fait quand même aussi une nation qui est assez divisée. Par ailleurs, en 2014, il y a deux républiques séparatistes autodéclarées, donc qui sont apparues, et qui étaient pro-russes, qui étaient vraiment situées dans l'est du pays, et qui voulaient être attachées finalement à la Russie, un peu de la même façon, enfin de la même façon statutaire en tout cas, que la Crimée, pas sur la façon dont c'est arrivé. Mais finalement, la Russie a été hyper frileuse, et ça a été que très très récemment qu'elle a reconnu ces républiques. Il y a aussi un événement marquant dans l'histoire récente de l'Ukraine, c'est en 2013-2014, c'est le fameux mouvement Maïdan, qui a été aussi appelé Révolution de la Dignité, et qui aboutira à la fuite et à la destitution d'un des présidents pro-russes qui dirigeait l'Ukraine à ce moment-là. Ces manifestations, elles ont débuté suite à la décision du gouvernement ukrainien pro-russe de l'époque de ne pas signer des accords de coopération avec l'Europe, plutôt préférant s'organiser avec la Russie. Pour se donner une petite idée, les manifs, elles avaient d'abord réuni 100 000 personnes à la fin 2013 et jusqu'à 500 000 personnes en février 2014. Pour autant, c'était, même si c'était des mêmes manifestations, les personnes qui composaient la foule étaient vraiment très hétérogènes. Il y avait des militants d'extrême droite qui venaient avec leurs symboles, des dirigeants libéraux qui parlaient des valeurs européennes et de l'intégration européenne, des Ukrainiens ordinaires qui sont simplement sortis contre le gouvernement. En tout cas, dans tous les cas, il semblerait quand même que ce mouvement était porté par un fort sentiment anti-oligarchie. Et que, mais malgré tout, il y a quand même des oligarques qui ont financé évidemment cette manifestation pour pousser le dirigeant pro-russe qui s'appelait Yanukovych à démissionner pour évidemment leurs intérêts personnels. En tout cas, ce qu'on doit en retenir, c'est que la répression y a été incroyablement violente. Pour vous donner une idée, on a pu compter plus de 80 morts simplement entre le 18 et le 21 février 2014. Donc ça, c'est un peu pour l'histoire et ça permet quand même un petit peu de mieux comprendre comment peuvent se situer ou pas les Ukrainiens dans ce qui est en train de se passer. Et bah, effectivement, malheureusement, il y a une attaque de Kiev ce jour. Donc c'est quand même la Russie qui a attaqué la capitale de l'Ukraine, ce qui est quand même un acte plus que fort. Et clairement, c'est un état de guerre maintenant qu'on peut constater là-bas. Olaf Scholz a dit hier, et ça semblait assez juste, que c'était une tentative de déplacer par la violence les frontières en Europe, peut-être même de rayer un pays entier de la carte. Parallèlement, en Russie, il y avait quand même eu des mobilisations, beaucoup de manifestations contre effectivement cette invasion et cette guerre de l'Ukraine. Et malheureusement, comme un petit peu à chaque fois en Russie, et ben, dans ces manifs, il y avait donc à peu près 51 grandes villes qui étaient concernées. Il y a eu plus de 1400 personnes qui ont été arrêtées. Dans tout ça, il y a quand même l'Union européenne, parce qu'on rappelle que du coup l'Ukraine ne fait pas partie de l'Union européenne, mais du coup, et finalement, si l'Ukraine venait à disparaître, la Russie aurait des frontières très directes avec l'UE. Elle s'est réunie à un sommet à Bruxelles, elle a approuvé dans la soirée de jeudi des sanctions massives contre la Russie. Les dirigeants russes devront faire face à un isolement sans précédent. C'est von der Leyen qui nous racontait ça, la présidente de la Commission européenne. C'est un train de sanctions le plus sévère jamais mis en œuvre, etc., etc. Donc beaucoup d'opposition. Et l'idée, c'est de geler finalement, enfin de faire une grosse pression économique sur la Russie de la part de l'Union européenne. Donc pour ça, ils ont gelé entre autres les avoirs de Poutine et de certains de ses plus proches collaborateurs aujourd'hui. Mais pour autant, ils sont toujours dans le réseau interbancaire SWIFT, qui est un des rouages essentiels de la finance mondiale. Voilà, alors maintenant qu'on a dit ça, c'est toujours un peu difficile de se positionner. On ne va pas se lancer dans un décompte macabre de compter les morts chaque jour ou de vous les rappeler chaque semaine, peut-être ça va être un petit peu lourd. En revanche, il y a un texte qui a été publié sur Rébellion, que vous trouverez assez facilement, qui a été écrit, et du coup je vais citer les personnes qui l'ont écrite. Ce texte a été coécrit par plusieurs activistes anti-autoritaires actifs d'Ukraine. Nous ne représentons pas une organisation, mais nous nous sommes réunis pour écrire ce texte et nous préparer à une éventuelle guerre. Outre nous, le texte a été rédigé par plus de 10 personnes, dont des participants aux événements décrits, des journalistes qui ont vérifié l'exactitude de nos informations et des anarchistes de Russie, de Biélorussie et d'Europe. Nous avons reçu de nombreuses corrections et clarifications afin d'écrire le texte le plus objectif possible. Si la guerre éclate, nous ne savons pas si le mouvement anti-autoritaire survivra, mais nous essaierons de le faire. En attendant, ce texte est une tentative pour laisser en ligne l'expérience que nous avons accumulée. Alors c'est un très très long texte, on va simplement lire un extrait, mais on vous invite quand même à aller le lire intégralement. Il revient sur l'histoire de l'Ukraine et sur la constitution ou non, qui a été quand même finalement assez laborieuse des mouvements autoritaires là-bas. Les anarchistes d'Ukraine, de Biélorussie et de Russie soutiennent pour la plupart, directement ou implicitement, l'indépendance de l'Ukraine. La raison est que, même avec toute l'hystérie nationale, la corruption et un grand nombre de nazis comparés à la Russie et aux pays qu'elle contrôle, l'Ukraine ressemble à un îlot de liberté. Ce pays conserve des phénomènes uniques, entre guillemets. Dans la région post-soviétique, telle que la remplaçabilité du président, un parlement qui a plus qu'un pouvoir nominal et un droit de réunion pacifique. Dans certains cas, compte tenu de l'attention supplémentaire de la société, les tribunaux fonctionnent même parfois selon le protocole prévu. Dire que cette situation est préférable à celle de la Russie n'a rien de nouveau. Comme l'écrivait Bakounine, nous sommes fermement convaincus que la République la plus imparfaite est mille fois meilleure que la monarchie la plus éclairée. Il existe de nombreux problèmes à l'intérieur de l'Ukraine, mais ces problèmes ont plus de chances d'être résolus sans l'intervention de la Russie. Cela vaut-il la peine de combattre les troupes russes en cas d'invasion ? Nous pensons que la réponse est oui. Les options que les anarchistes ukrainiens envisagent à l'heure actuelle comprennent l'adhésion aux forces armées de l'Ukraine, l'engagement dans la défense du territoire et l'engagement partisan et le volontariat. L'Ukraine est maintenant à l'avant-garde de la lutte contre l'impérialisme russe. La Russie a des plans à long terme pour détruire la démocratie en Europe. Nous savons que peu d'attention a encore été accordée à ce danger. Mais si vous suivez les déclarations des politiciens de premier plan, d'organisations d'extrême droite et de communistes autoritaires, vous constaterez au fil du temps qu'il existe déjà un vaste réseau d'espionnage en Europe. Par exemple, certains hauts responsables, après avoir quitté leurs fonctions, se voient attribuer un poste dans une société pétrolière russe. On pense à Gerhard Schröder qui était chancelier allemand et à François Fillon qu'on ne présentera pas. Nous considérons que les slogans « dites non à la guerre » ou « la guerre des empires » sont inefficaces et populistes. Le mouvement anarchiste n'a aucune influence sur le processus, donc de telles déclarations ne changent rien du tout. Ça, pour remettre dans le contexte du texte, ils expliquent vraiment la grande difficulté de créer des organisations de lutte et autre chose que des très petits groupes affinitaires, et entre autres pendant les manifestations de Maïdan, où comme il y avait beaucoup de fachos qui manifestaient aussi contre le président pro-russe, généralement les mouvements anti-autoritaires et anarchistes ont été plutôt éclatés par les organisations en place qui étaient soit des communistes autoritaires, soit des fachos. Notre position est basée sur le fait que nous ne voulons pas fuir, nous ne voulons pas être des otages et nous ne voulons pas être tués sans combattre. Vous pouvez regarder en Afghanistan et comprendre ce que signifie non à la guerre. Lorsque les talibans avancent, les gens fuient en masse et meurent dans le chaos des aéroports. Quant à l'attitude envers l'OTAN, les auteurs de ce texte sont divisés entre deux points de vue. Certains d'entre nous ont une approche positive de cette situation. Il est évident que l'Ukraine ne peut contrer la Russie à elle seule. Même en tenant compte de l'important mouvement de volontaires, des technologies et des armes modernes sont nécessaires. En dehors de l'OTAN, l'Ukraine n'a pas d'autres alliés qui peuvent l'aider dans ce domaine. Il rappelle par la suite ce qui s'est passé et ce qui se passe encore au Kurdistan et comment, malheureusement, il constate qu'il y a la nécessité d'une aide militaire. Une éventuelle invasion russe oblige le peuple ukrainien à chercher des alliés dans la lutte contre Moscou. Pas sur les médias sociaux, mais dans le monde réel. Les anarchistes ne disposent pas de ressources suffisantes en Ukraine ou ailleurs pour répondre efficacement à l'invasion du régime de Poutine. Il faut donc penser à accepter le soutien de l'OTAN. L'autre point de vue, auquel d'autres membres de ce groupe de rédaction souscrivent, est que l'OTAN et l'Union européenne, en renforçant leur influence en Ukraine, cimenteront le système actuel du capitalisme sauvage. Et rendront le potentiel d'une révolution sociale encore moins réalisable. Dans le système du capitalisme mondial, dont le fleuron est les États-Unis, en tant que leader de l'OTAN, l'Ukraine se voit attribuer la place d'une modeste frontière, un fournisseur de main-d'œuvre et de ressources bon marché. Il est donc important que la société ukrainienne prenne conscience de la nécessité d'une indépendance vis-à-vis de tous les impérialistes. Dans le contexte de la capacité de défense du pays, l'accent ne doit pas être mis sur l'importance de la technologie de l'OTAN et du soutien à l'armée régulière, mais sur les potentiels de la société en matière de résistance de guérilla de base. Nous considérons que cette guerre est avant tout dirigée contre Poutine et les régimes qu'il contrôle. Outre la motivation banale de ne pas vivre sous une dictature, nous voyons un potentiel dans la société ukrainienne, qui est l'une des plus actives, indépendantes et rebelles de la région. La longue histoire de résistance du peuple au cours des 30 dernières années en est une preuve solide. Cela nous donne l'espoir que les concepts de démocratie directe ont ici un terrain fertile. La position d'outsider pendant Maïdan et la guerre a eu un effet démoralisateur sur le mouvement anarchiste. La sensibilisation a été entravée par le fait que la propagande russe a monopolisé le mot antifascisme. En raison de la présence des symboles de l'URSS parmi les militants pro-russes, l'attitude envers le mot communisme était extrêmement négative, de sorte que même la combinaison anarcho-communiste était perçue négativement. Les déclarations contre l'ultra-droite pro-ukrainienne ont jeté une ombre de doutes sur les anarchistes aux yeux des gens ordinaires. Il existait un accord tacite selon lequel l'ultra-droite n'attaquerait pas les anarchistes et les antifascistes s'ils n'affichaient pas leurs symboles lors des rassemblements et manifestations. La droite avait beaucoup d'armes dans ses mains. Cette situation a créé un sentiment de frustration. La police ne fonctionnait pas bien, quelqu'un pouvait facilement être tué sans conséquence. Par exemple, en 2015, c'est l'activiste pro-russe Oles Buzina qui a été assassiné. Il existe des groupes d'activistes de différentes sortes, alors des anarchistes classiques, queer, des anarcho-féministes, food not bombs, éco-initiatives et autres, ainsi que des petites plateformes d'information. Récemment, une ressource antifasciste à caractère politique est apparue sur Telegram et traduit ses publications en anglais. Aujourd'hui, les tensions entre les groupes s'apaisent progressivement, car il y a eu récemment de nombreuses actions communes et une participation commune aux conflits sociaux. Parmi les plus importantes, citons la campagne contre la déportation de l'anarchiste biélorusse Alexei Boulenkov, qui a réussi à gagner un procès contre les services spéciaux ukrainiens et à rester en Ukraine. Et la défense d'un des quartiers de Kiev, le quartier de Podil, contre les descentes de police et les attaques de l'ultra-droite. Nous avons encore très peu d'influence sur la société dans son ensemble. C'est en grande partie parce que l'idée même d'un besoin d'organisation et de structure anarchiste a été ignorée ou niée pendant longtemps. Les groupes anarchistes étaient très vite anéantis par le SBU, donc le service de sécurité de l'Ukraine, ou l'extrême droite. Aujourd'hui, nous sommes sortis de la stagnation et nous nous développons et nous anticipons donc une nouvelle répression et de nouvelles tentatives du SBU de prendre le contrôle du mouvement. À ce stade, notre rôle peut être décrit comme celui d'approche et de points de vue plus radicaux dans le camp démocratique. Si les libéraux préfèrent se plaindre à la police en cas d'attaque de la police ou de l'extrême droite, les anarchistes proposent de coopérer avec d'autres groupes qui souffriraient d'un problème similaire. Les anarchistes essaient maintenant de créer des liens horizontaux au sein de la société basés sur les intérêts communs, afin que les communautés puissent répondre à leurs propres besoins, y compris l'autodéfense. Cela diffère considérablement de la pratique politique ukrainienne ordinaire, dans laquelle il est souvent proposé de s'unir autour d'organisations, de représentants ou de représentantes, ou de la police. Les organisations et les représentantes sont souvent soudoyées, et les personnes qui sont rassemblées autour d'eux sont déçues. Mais si une guerre éclate, l'essentiel sera à nouveau la capacité à participer à un conflit armé. C'est la fin de la partie du texte. Et effectivement, on voit bien comment, à la fois, c'est très difficile, en tout cas pour les Ukrainiens, de penser un mouvement politique qui soit évidemment antimilitariste alors qu'eux-mêmes se font attaquer. Comment ils pourront se défendre? Ils parlent aussi beaucoup, et c'est pour ça qu'on vous renvoie au texte, cette idée, finalement, ils vont défendre leurs frontières, ils vont défendre un État qu'ils ne reconnaissent pas comme étant une solution viable. Et pour autant, ce qu'ils expliquent, c'est vraiment ça. Peut-être, en tout cas, une partie d'entre eux trouve que la Russie, ce serait pire que l'aide de l'Union européenne ou de l'OTAN, et que par ailleurs, même si l'État est certainement pas la forme revendiquée comme idéale, en tout cas aujourd'hui, c'est des personnes qui se retrouvent à envisager ou à prendre les armes, le tout pour défendre leurs frontières face à l'invasion et aux agressions russes.
Et du coup, toujours dans cette thématique de l'Ukraine, en fait, l'Ukraine, on a tous en tête Tchernobyl. En fait, l'Ukraine a aussi de nombreux autres réacteurs nucléaires. Et du coup, là, je vais vous lire un communiqué de la CRIRAD, qui est une association française qui fait des mesures de radioactivité et qui produit un discours un peu scientifique de lutte contre, entre autres, contre le nucléaire. Donc je vais vous lire leur communiqué qu'ils ont fait suite notamment au fait que les troupes russes ont pris le contrôle du site de la centrale de Tchernobyl. Alors, aucun des quatre réacteurs n'est en fonctionnement, le dernier a été arrêté en 2000. Mais la zone d'exclusion de Tchernobyl comporte de nombreuses installations à risque, entreposage de combustibles irradiés, sarcophage du réacteur numéro 4, désormais recouvert d'une arche qui n'est certes pas conçue pour résister à des obus, installation de traitement de déchets radioactifs et multiples entreposages de déchets radioactifs pour la plupart non sécurisés, un grand nombre étant enfouis en vrac dans des fosses simplement recouvertes d'une couche de terre. sans compter que la couche superficielle du sol et la végétation constituent d'importants réservoirs de radioactivité susceptibles d'être mobilisés par des bombardements et ou des incendies. L'un des termes sources les plus préoccupants est l'entreposage en piscine des assemblages de combustibles irradiés déchargés des réacteurs numéro 1, 2 et 3. Tout doit être fait pour maintenir en fonctionnement leur dispositif de sûreté, ce qui implique que les équipes soient toujours en situation d'assurer les interventions. Depuis la fin de la journée du 24 février, un certain nombre de capteurs de mesure du taux de radiation gamma ambiant situé à proximité de la centrale de Tchernobyl et exploité par l'agence d'État ukrainienne DAZV, qui gère la zone d'exclusion de Tchernobyl, ont enregistré une forte augmentation du niveau de radiation, multiplication par 20, 30, voire près de 40 selon les points, dans toutes les directions nord, sud, ouest et est de la zone, et jusqu'à une trentaine de kilomètres de distance, voire plus. D'autres capteurs, en revanche, ne montrent aucune augmentation. Le 24 matin, les vents soufflaient plutôt en direction de l'est-sud-est le matin, avant de s'orienter sud vers le nord dans l'après-midi. Des recherches complémentaires doivent être conduites pour interpréter ces données. Si les débits d'ose enregistrés correspondent à des valeurs réelles, par exemple le passage d'environ 3 microsieverts par heure à 65,5 microsieverts par heure, la situation est extrêmement préoccupante. D'autant plus que l'on peut logiquement craindre que l'augmentation du rayonnement ambiant, risque d'irradiation externe, s'accompagne de la contamination de l'air et donc de risque d'inhalation par les militaires et les civils présents. Cependant, on ne peut exclure l'impact de perturbations électromagnétiques, voire d'une cyberattaque. Les laboratoires de la CRIRAD s'efforcent actuellement de vérifier et recouper les informations. Il suit également l'évolution de la pollution potentielle. Les vents soufflent actuellement en direction du nord et devraient tourner légèrement en direction du nord-nord-est dans l'après-midi. L'inquiétude concerne également la sécurité des 15 réacteurs des 4 centrales nucléaires de... Alors là, je ne vais pas forcément bien dire les noms, désolé. Khmelnytsky, Konstantinovka, Rovnov et Zaporizhzhia. Évidemment, il est raisonnable de penser qu'elles ne constituent pas des objectifs militaires, mais des situations de conflit sont toujours des situations à haut risque. Il est possible de diminuer les risques potentiels en arrêtant les réacteurs. Mais en matière d'électricité, en fait, l'Ukraine dépend à plus de 50% du nucléaire. Et du coup, ça, donc ça c'est un communiqué qu'ils ont fait aujourd'hui. Et il y a un autre communiqué qu'ils ont fait un petit peu plus tard, puisqu'il y a eu d'autres nouvelles. Donc je vais vous lire quelques passages. Donc ce matin à 8h05, le SNRIU, donc le State Nuclear Regulatory Inspectorate of Ukraine, pardon pour l'accent, a publié un court communiqué sur la situation radiologique dans la zone d'exclusion, environ 30 km autour de la centrale de Tchernobyl. Il indique que les données du système automatisé de surveillance montrent des dépassements de seuil de contrôle du débit de dose gamma en un nombre important de points d'observation. Faute de pouvoir accéder à la zone en raison des combats, il précise qu'il est à ce stade impossible de déterminer la cause de l'augmentation de ces valeurs. À 9h, il y a eu une mise à jour qui indique que les experts d'EcoCenter établissent un lien entre ces déplacements et la perturbation de la couche supérieure du sol due au déplacement d'un grand nombre d'engins militaires lourds de la zone d'exclusion et à l'augmentation de la pollution atmosphérique. Donc, étant donné les niveaux de radioactivité encore très élevés des sols, cette hypothèse est tout à fait plausible. Les incendies survenant régulièrement dans cette zone sont responsables d'importantes élévations de la contamination de l'air. En l'absence d'incendie, l'essentiel des poussières radioactives devrait retomber au niveau local et la fraction susceptible d'être inhalée devrait également être moins importante. Mais ils indiquent qu'il faut quand même avoir des protections respiratoires puisqu'en fait, il y a quand même une très 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 forte contamination des sols. Ce même communiqué de la SNRIU, publié ce vendredi matin, indique que l'état des installations nucléaires de Tchernobyl et des autres installations est inchangé. Donc une information plutôt rassurante. Peut-on déduire que malgré les affrontements, les communications sont maintenues entre les équipes et que celles-ci continuent d'assurer les interventions de sûreté sur le site de Tchernobyl? Donc ça, on ne sait pas trop. De source officielle, 12 des 15 réacteurs nucléaires étaient en fonctionnement ce matin. étaient déconnectés du réseau électrique, donc des réacteurs numéro 5 de la centrale de Zaporizhzhia, le réacteur numéro 1 de Rivnov et le réacteur numéro 2 de Kamenitsky. Voilà, ça c'était pour les deux petits communiqués de la CRIRAD sur la situation, et ils surveillent un peu ce truc-là, donc je vous conseille un peu de suivre un peu les informations qu'ils vont donner là-dessus.
En même temps que les infos sur la guerre, on peut suivre les infos sur le nucléaire, c'est tout d'un coup.
J'avais entendu un Ukrainien qui disait que justement... Avec cette déclaration de guerre là, finalement d'aujourd'hui, c'était le deuxième pire jour de l'histoire contemporaine de l'Ukraine après l'explosion de Tchernobyl. Ça prend sens. Ouais.
Catastrophe de catastrophe en catastrophe.
C'est ça.
Et du coup, je crois qu'on a fini avec l'Ukraine.
On va déménager.
On va passer à une autre catastrophe, malheureusement.
On est quand même sur des questions de frontières, hein, finalement. La République dominicaine, du coup, qui entame la construction d'un mur à sa frontière avec Haïti. Promise il y a un an par le président de la République dominicaine, Luis Abinader, la construction d'un mur le long de la frontière de son pays avec Haïti a été lancée en grande pompe dimanche 20 février dans la zone frontalière de Dajabon, au nord-ouest du pays. Cette barrière, dit-il, bénéficiera aux deux pays, car elle permettra de contrôler beaucoup plus efficacement le commerce bilatéral, de réguler les flux migratoires pour lutter contre les mafias, le trafic d'êtres humains, de lutter contre le trafic de drogue et les ventes illégales d'armes. Les travaux coûteront, pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur, 31 millions de dollars, environ 27 millions d'euros, et dureront 9 mois. La première étape, lancée dimanche, comptera 54 km de clôture dans les zones les plus peuplées et sensibles de la frontière, selon le président. Une deuxième étape prolongera le mur de 110 km. Le mur s'étendra ainsi sur 164 des 380 km de la frontière poreuse entre les deux voisins qui se partagent l'île d'Hispaniola. Donc près de 4 mètres de hauteur, 70 tours de surveillance. Le mur en béton armé sur lequel sera posée une structure métallique sera haut de 390 mètres et épais de 20 cm. Il y aura, a ajouté l'armée, 70 tours de surveillance et de contrôle. La grave crise institutionnelle et sécuritaire en Haïti a conduit sa population à une situation préoccupante d'instabilité politique et sociale, ainsi qu'une crise économique et alimentaire endémique, a déclaré pendant son discours M. Abinader, évoquant les soubresauts que traverse Haïti depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse le 7 juillet. Chaque fois qu'Haïti a subi une catastrophe, nous, les Dominicains, avons toujours été les premiers à lui venir en aide. Cependant, la République dominicaine ne peut pas prendre en charge la crise politique et économique de ce pays, ni résoudre le reste de ses problèmes, a-t-il dit. Cette crise doit être surmontée par les Haïtiens eux-mêmes et prise en charge par la communauté internationale. À côté de ça, il y a les organisations de défense des migrants qui critiquent la construction du mur, estimant qu'il provoquera xénophobie et racisme. Le maire de Dajabon, Santiago Riveron, a déclaré à l'agence France-Presse qu'il n'était pas d'accord avec ce type de mur, car le vrai mur, c'est celui de l'économie et de la corruption, accusant des militaires d'encaisser des pots de vin de 100 à 200 pesos, ce qui équivaut à 2 à 4 dollars, par immigrants clandestins. La République dominicaine, du coup, à ce jour, c'est une population de 10,5 millions d'habitants. Elle accueille quelques 500 000 Haïtiens à la recherche de meilleures conditions de vie chez le voisin bien plus prospère, ce qui peut être une des motivations à la migration. Alors du coup, moi, c'était un peu l'interpellation de voir encore un autre mur qui se construit. Toutes ces murs et ces barrières frontalières, là, c'est quelque chose qui est assez d'actualité. L'édification des murs et des murailles, ça exprime au sens le plus concret du terme la fonction de barrière de la frontière. Ils introduisent une perturbation notable des flux dans le sens de leur réduction, de leur détournement. Murs et frontières relèvent de la logique de la fermeture spatiale et de l'exclusion. La construction des murs à l'heure de la mondialisation relève ainsi d'un paradoxe qui consiste à briser des flux dans un monde où les échanges explosent. Les fonctions assignées à ces édifices étaient d'abord plutôt essentiellement défensives. On peut avoir en tête la grande muraille de Chine pour se protéger de l'invasion d'Hun au IIIe siècle avant Jésus-Christ, le mur d'Adrien, beaucoup plus contemporain, la ligne Maginot. Mais avec les évolutions technologiques, l'aviation, les missiles, même les attaques numériques, ces obstacles terrestres ont perdu de leur injonction stratégique. Les nouvelles fonctions assignées sont surtout de contrôler les flux d'échanges, marchandises et hommes, et tenter d'entraver la multiplication des flux non contrôlés, trafic illicite, migration illégale, et de répondre aux problèmes de sécurité nationale. C'est ce sur quoi a pu s'appuyer justement le président de la République dominicaine pour valider son idée de construire un mur. Alors on a aussi en tête, même actuellement, hein, toutes des clôtures renforcées sur les enclaves espagnoles entre l'Afrique et l'Europe, la Secure Fence Act du président Trump, ex-président des États-Unis, entre le Mexique et les États-Unis. Début 2002, une barrière de sécurité entre Israël et les territoires palestiniens, etc. Enfin, du coup, on voit bien qu'il y a une sorte d'explosion de ce genre de, comme dit Damien Simoneau, d'emmurement du monde. Pour la petite idée, il y avait 6 murs de ce genre qui pouvaient, 6 murs frontières en 1989. En 2020, on en comptait 63. Donc construire un mur, on peut voir quand même un petit peu que ça relève plus du spectacle politique et de la volonté finalement de décaler un peu plus loin les flux migratoires sans les diminuer, ce qui rend d'autant plus la migration de plus en plus dangereuse. Le mur au niveau diplomatique, c'est aussi une notion de gel des tensions et puis d'absence de processus diplomatique. Donc on construit des murs à la place de se parler, finalement. Quand on peut un peu entendre la description de la construction du mur avec sa technique, sa hauteur, tout un tas de tours de surveillance, etc., de caméras, on peut avoir la notion que c'est quand même un commerce d'avenir. En 2009, la militarisation de la frontière entre l'Arabie Saoudite et l'Irak s'était révélée, par exemple, un juteux contrat pour l'entreprise franco-allemande EADS. En 2018, un rapport du Transnational Institute évaluait ainsi le marché international de la sécurité aux frontières à 17,5 milliards d'euros et lui prédisait une croissance d'au moins 8% dans les années à venir. Donc le projet entre Haïti et la République dominicaine est loin de contredire ces constatations. Alors voilà, juste pour petit rappel, même si on dépasse un petit peu l'idéalisme en 2022, selon l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, souvenons-nous, toute personne a le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l'intérieur d'un État, ainsi que le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays.
Rubrique nationale.
Je ne céderai rien, ni aux fainéants, ni aux cyniques, ni aux extrêmes.
Il y a, d'un côté, un nouveau totalitarisme, et c'est nous.
C'est pourquoi j'ai décidé qu'en novembre prochain, nous sortirons de l'état de droit.
Des meilleures nouvelles nationales.
Ça change.
Alors, on a Jean Castex qui a annoncé le 18 février l'extension du Ségur aux travailleurs et travailleuses sociales. Seuls les métiers de l'accompagnement sont concernés. C'est plus 183 euros net par mois pour les travailleurs et travailleuses sociales employés par des structures associatives non lucratives. Si cette revalorisation mensuelle est un enjeu à court terme, nous dit-on, le gouvernement assure vouloir rendre ses carrières plus attractives dans la durée. il débloquera 500 millions d'euros par an pour financer une hausse globale des salaires dans le cadre d'une nouvelle convention collective unique pour toute la branche, que les partenaires sociaux sont invités à négocier à l'horizon 2024. Alors, d'après les syndicats, on reste prudent à plusieurs niveaux. La prime sera versée en avril avec acte en main. On est en élection présidentielle et les décrets ne sont pas sortis. Ensuite, le Premier ministre a bien précisé que c'était lié à la fusion des conventions avec une convention unique qui ne tiendrait pas compte que de l'ancienneté, mais aussi des compétences. Ce qui ressort des négociations pour l'instant, c'est qu'on est toujours sur un projet de part variable dans le salaire. Mais basé sur quelles compétences ? En dépit des personnes accompagnées, avec des objectifs de sortie, des pressions à l'autonomisation des personnes accompagnées, des réductions des coûts, cela reste à déterminer. Aussi, quels acquis disparaîtront dans la nouvelle convention qui promet un meilleur salaire ? Les syndicats demandent au minimum 300 euros dans le salaire, mais les 183 euros seraient dans le domaine des primes. Et les postes administratifs et techniques sont-ils exclus ? Suite à l'annonce, la méfiance.
Et du coup, je crois que c'est à moi. Moi, je vous ai annoncé une bonne nouvelle aussi. Enfin, en tout cas, voilà, enfin une semi-bonne nouvelle, comme c'est toujours dit.
Une petite bonne nouvelle, quand même. On prend ce qu'il y a aujourd'hui.
Donc, oui, voilà, le Conseil constitutionnel, vous l'avez entendu dans le fil d'info, le Conseil constitutionnel censure la conservation généralisée des données de connexion. Et c'est tombé ce matin. Nouvelle toute fraîche. Donc, dans sa décision. Donc, là, je vous lis un petit truc que la Quadrature a sorti. Donc dans sa décision de ce matin, le Conseil constitutionnel vient de censurer, comme donc francilien.net et la Quadrature, le lui demandaient une partie de l'obligation de conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, c'est-à-dire la surveillance de masse des télécommunications. Cette censure est une bonne nouvelle, hein, mais ne va pas en pratique mettre tout de suite fin à cette surveillance illégale. Tiens donc. Depuis 7 ans, donc, la Quadrature du Net et d'autres associations se battent contre cette surveillance de réseaux de télécommunications. Celle-ci permet aux services de police, de renseignement et à la Hadopi Arcom d'accéder pendant une année à toutes les traces numériques que nous laissons en utilisant un téléphone ou un ordinateur. Pourtant, l'obligation imposée aux opérateurs et hébergeurs de conserver toutes ces données pour les besoins de la police était jugée illégale et disproportionnée depuis 2014 par la Cour de justice de l'Union européenne. Du coup, ça fait 7 ans. Et en 7 ans de procédure, du coup, ces associations qui sont en lutte contre cette surveillance ont essuyé, mépris et échec devant les juridictions françaises. Mépris de l'état de droit, d'abord, mis à mal par le gouvernement. Celui-ci ne veut pas respecter cette jurisprudence européenne, confirmée par la victoire obtenue difficilement par la Quadrature, FDN et FFDN, ce sont des fédérations de fournisseurs d'accès Internet alternatif, et Iguane.net, devant la Cour de justice de l'Union européenne en 2020, en invoquant évidemment des inepties juridiques. La France demandait au Conseil d'État de ne pas appliquer une décision de justice qui pourtant s'impose sans discussion à elle. Échec ensuite parce qu'en 2021, prétextant un état d'urgence permanent qui justifierait les pires mesures de surveillance, le Conseil d'État préférera finalement donner raison aux velléités sécuritaires du gouvernement. Alors aujourd'hui, le Conseil constitutionnel vient de prendre un autre chemin. Il avait à se prononcer sur la question de la constitutionnalité d'une précédente version de la loi encadrant cette obligation de conservation généralisée et indifférenciée. En considérant que celle-ci est disproportionnée, le Conseil constitutionnel s'aligne donc avec la ligne jurisprudentielle européenne que les associations défendent depuis le début de cette bataille. Après toute cette résistance de la part du gouvernement et du Conseil d'État, ce sursaut est plutôt une bonne nouvelle. Alors je vous cite quand même ce qu'a dit le Conseil constitutionnel. En autorisant la conservation générale et indifférenciée des données de connexion, les dispositions contestées portent une atteinte disproportionnée aux droits et au respect de la vie privée. C'est bien, ils l'ont reconnu, c'est bien.
Alors, quelle surprise.
Enfin, cette censure, attention, maintenant c'est le...
Mais finalement...
Cette censure arrive toutefois un peu tard. Déjà, le conseil constitutionnel n'était saisi que de l'ancienne version de l'article. Donc le fameux article L34-1 du Code des postes et des communications électroniques. Oui. Celle-ci constituait la base juridique de l'affaire pénale à l'occasion de laquelle la question avait été posée. Mais, entre-temps, cet article a été réécrit à l'été 2021 par l'adoption de la loi renseignement. Si la conservation des données est toujours prévue par les nouvelles dispositions... La manière dont elle est encadrée est plus complexe et suit l'interprétation opportuniste du Conseil d'État. On ne peut donc affirmer que la décision d'aujourd'hui amène forcément à une inconstitutionnalité de la nouvelle version de cet article. Ensuite, le Conseil constitutionnel a décidé de se limiter au champ pénal seulement, ce qui veut dire que ni la surveillance à des fins de lutte contre le piratage, ni celle à des fins de renseignement ne sont concernés par la décision d'aujourd'hui. Or, comme on voit depuis 2015, et plus récemment avec la question du partage de renseignements, le Conseil constitutionnel n'a jamais voulu entraver le travail des services de renseignement, quitte à nier les droits fondamentaux. Donc voilà, donc c'est quand même une bonne nouvelle qu'il l'ait reconnu, mais voilà, comme d'habitude, c'est pas du tout fini, tout ce bazar.
Et enfin... La récente actualité autour de l'homicide d'une compagne de policiers ravive les questions d'impunité dans la police. Rien de bien surprenant, mais c'est quand même important d'en parler. Alors, Arnaud B., le gardien de la paix soupçonné d'avoir étranglé sa compagne, s'est rendu à la police mardi 22 février 2022. Il s'est présenté de lui-même après plus de 20 jours de cavale. Auparavant, il avait été placé en garde à vue en octobre 2019 pour des violences sur sa compagne de l'époque, et avait écopé d'une alternative aux poursuites, un stage de sensibilisation aux violences conjugales. Sur le plan administratif, il avait été sanctionné d'un simple avertissement, la sanction disciplinaire la plus basse de la fonction publique, non inscrite dans le dossier de l'agent. Le 17 juin 2021, la police était intervenue au domicile d'Arnaud et d'Amanda pour des faits de violence sur les deux parties. La jeune femme avait alors confié être une victime régulière de sévices corporels. Elle n'avait pas porté plainte. Cet homme, qui était accompagné sur le plan psychologique, social et médical, était encore en exercice à police secours. Ses chefs auraient pu penser à le retirer du terrain. D'autres faits viennent questionner l'exemplarité de la police et l'impunité corporatiste. Pourtant, dans un bilan statistique de 2020, le gouvernement présente ses commissariats comme mieux formés à l'accueil et à l'écoute. En guise d'illustration, voici les propos d'un policier le 5 février 2022. Je cite. Une pute. Putain, elle refuse la confronte en plus, la pute, comme par hasard. En fait, c'était juste pour lui casser les couilles. Peu après, il conclut. Putain, grosse pute. Ces mots, ils ont été enregistrés par mégarde sur le répondeur d'une jeune femme venue porter plainte quelques heures plus tôt pour agression sexuelle. On trouvera l'extrait fleuri en entier sur Mediapart. Ou encore Lou, 19 ans, une jeune femme trans, a déposé plainte à Nice début janvier 2022. Le policier lui a posé de nombreuses questions d'une violence inouïe sur son orientation sexuelle, ses pratiques sexuelles, sa sérologie et si elle avait joui pendant les faits. Caroline De Haas, dans Le Monde, parle d'une défaillance structurelle et massive de nos institutions. Ses propos. Les refus de prendre les plaintes par les forces de l'ordre ne sont pas des exceptions. Dans les témoignages qui se multiplient, reviennent la banalisation de la violence, l'humiliation et la culpabilisation des victimes. Lorsque la plainte est prise, les statistiques du ministère de la Justice montrent qu'elle a très peu de chances d'aboutir. Un rapport du ministère de la Justice a montré, en 2019, que dans 80% des cas de féminicide, lorsque les femmes avaient porté plainte, leur plainte avait été classée sans suite. Les forces de l'ordre et la justice n'avaient pas pris leur plainte au sérieux. Elles ont été assassinées. Lorsque la plainte est traitée, la justice va avoir tendance à disqualifier les faits. un crime va être jugé en délit. On dit aussi aux victimes qu'elles vont pourrir la vie de ceux qu'elles dénoncent, ou leur carrière, quand c'est des policiers. Jeudi 13 janvier, 4 hommes sont venus au tribunal correctionnel de La Rochelle pour raconter leur traumatisme. Ils affirment avoir été victimes d'agressions sexuelles entre 2006 et 2011, alors qu'ils étaient jeunes adultes, de la part de leur ancien chef scout, pas facile à dire, également haut gradé de la police. Durant les 10 premières années de l'enquête, le mis en cause, Jean-Christophe M., 57 ans, chef d'état-major, n'a pas été suspendu de ses fonctions. Dans la procédure, il bénéficiait alors du statut de témoin assisté. Ce n'est qu'en 2020 qu'il a été mis en examen. Enfin, le 24 février 2022, les agressions n'ont pas été reconnues. Il semble que ce ne soit pas qu'une question de formation à l'accueil de la parole dont ont besoin les forces de l'ordre, mais bien d'une remise en question complète. Nos policiers sont pétris de préjugés et de construits nocifs, aussi bien sur les personnes dont ils ont la charge que sur eux-mêmes. Au même titre que l'assignation de genre masculin qui pousse l'homme à recourir à la force, nos policiers s'assignent et sont assignés à l'endroit de la justice et du jugement. Le rôle de protection de la police a été remplacé par un autoritarisme décomplexé. Merci la police.
Et on fait quoi maintenant ?
Devine, mon premier est une personne qui n'a pas mangé. Mon second est oui en russe et mon tout est un outil permettant d'associer des actions et des moments et d'organiser ainsi son temps. C'est...
L'agenda !
Une société autoritaire, ça ne passe pas. Contre l'autoritarisme d'État et la récupération de l'extrême droite, il y a le collectif unitaire anti-autoritaire, le samedi 26 février, de 14h à 19h, qui vous invite à une mobilisation, manifestation, place Guichard. Donc rendez-vous 14h, place Guichard, samedi. Rencontre le même jour à la librairie de la Plume Noire, donc cette librairie autogérée qui accueille Laurier the Fox pour la présentation de son livre Reconnaissance. C'est à prix libre et ce sera de 15h à 18h, 8 rue Diderot dans les pentes de la Croix-Rousse. Pour un dimanche ensoleillé, peut-être, soutient la campagne Justice pour les Kurdes de midi à 18h. Alors que les bombardements turcs s'intensifient en Syrie et en Irak, que la répression s'abat sur les soutiens ici comme ailleurs, il est plus que temps d'exiger le retrait du PKK de la liste des organisations terroristes de l'Union européenne. Donc rendez-vous dimanche à l'invitation de l'association culturelle Mésopotamie, convivialité et soutien aux luttes internationalistes à midi au centre culturel de la Mésopotamie. Pour la semaine, mardi 1er mars, soirée de soutien à l'ACL. Donc à partir de 18h, il y a l'amicale du combat libre qui vous propose une pratique alternative des sports de combat. Donc à partir de 18h, soirée de soutien pour l'amicale du combat libre. Du coup, c'est
à l'amicale, je crois.
Ça se passe à l'amicale, du coup ? Mais ouais. L'amicale du futur ou
à l'amicale du futur pour okay. L'amicale du combat libre.
Très bien, excellent. Voilà. C'est dans le coin, de toute façon.
En tout cas, venez avec vos amis.
Ils sont voisins.
Ce sera le thème.
Oui, parce que c'est écrit soirée de soutien. Alors, ça doit être qu'il faut du monde. Et jeudi 3 mars, rencontre débat autour du livre Révolutionnaire. À partir de 19h à la librairie La Griffe, rue Sébastien Griffe. À l'occasion de la sortie du bouquin Révolutionnaire, récit pour une approche féministe de l'engagement. Donc à partir de 19h, présentation et histoire de sa construction.
Et du coup là, c'est la rubrique c'est la rubrique ACAB.
C'est la rubrique ACAB, c'est ça.
Je m'appelle Marius, j'ai 14 ans et je voudrais savoir ce que ça veut dire ACAB.
Cagnonfo vendredi.
Bah alors, qui répond au petit Marius?
Un petit peu de poésie. Restons un petit peu fleur bleue dans ce monde de merde, avec le cœur ou avec des bombes?
On vous laissera choisir pour ça. En tout cas, vous aurez tout le week-end pour réfléchir. Parce que le Canu Info, bah, c'est fini.
Bah, du coup, ouais, c'est fini. Mais... Merci de l'avoir écouté. Et puis, on va vous laisser, je pense, pendant 5 petites minutes avec les bandes continues. Et ensuite, ça sera l'émission Noise Pollution.
C'est de du Jungle Vals, c'est ça?
Oui, voilà, ouais. C'est un peu ce style-là. Voilà. En tout cas, à la semaine prochaine. Et puis, bonne écoute sur Radio Canu.